Adicias a tutes. On a toujours dansé, car la danse n'est pas seulement le privilège des rois. Il reste les témoignages peints comme celui de Bruegel l'Ancien, montrant la danse des paysans. On peut lire dans ce tableau de 1568 comme dans un livre d'images, où l'on voit un peuple en liesse qui s'amuse. Cette danse spontanée, répétée à l'envi par tous, va suivre plus tard la voie de l'intellectualisme. On la pense, l'analyse, on l'enferme dans une doctrine. La danse plaisir des sens, des oreilles et des yeux évolue vers une technique virtuose pensée pour la scène. La beauté formelle qui en résulte procure un état de grâce. Elle va au-delà du plaisir de l'œil pour devenir satisfaction équilibrée de l'esprit et de la sensibilité. L'intuition du parfait. L'Opéra de Paris va devenir le centre de cette danse et va permettre la diffusion de l'art de la danse dans toute l'Europe. Comment ? Mais grâce à tous ces chorégraphes et maîtres de danse formés en France qui ne trouvant pas une place dans les murs de l'Opéra de Paris, vont offrir leur talent dans les cours d'Europe et de Russie. La danse va donc évoluer grâce aux différents échanges et influences réciproques. L'opéra, toutefois, reste le lieu mythique de spectacles de ballet. Et on peut dire aujourd'hui encore. À sa création, les danseurs de l'opéra de Paris sont plus nombreux que les femmes. Influenceur royal oblige. Danseurs, chorégraphes et maîtres à danser sont tous des hommes, car il n'y a pas de danseuses professionnelles. Puis, au XVIIIe siècle, les premières professionnelles savent montrer leur talent. Elles sont capables d'enchanter les foules. Elles vont donc peu à peu rivaliser avec les hommes et trouver une place de choix, au prix même d'une certaine audace, comme la Camargo, capable de remplacer au pied levé un danseur ayant manqué son entrée et montrant au public son véritable talent de légèreté, égal à celui de l'homme. Comment était composée la troupe de l'Opéra de Paris ? Elle suivait le règlement établi par ordonnance de 1713 sur les effectifs et salaires. On peut se demander s'il y avait parité sur les salaires des danseurs. En y regardant de près, on s'aperçoit que les femmes, moins nombreuses, sont déjà sous-payées par rapport aux hommes pour le même travail. La troupe comportait 10 danseurs et 8 danseuses payées selon leur rang. Les deux danseurs principaux hommes étaient payés 1000 livres par an, alors que les femmes, seulement 900. Il en était de même pour les autres danseurs qui recevaient entre 800 et 600 livres et les femmes, seulement entre 500 et 400 pour le même travail. La recherche de l'égalité homme-femme a besoin de temps pour s'affirmer. Au cours du siècle, les traitements furent ajustés et l'effectif augmenté avec la venue des coryphées et des figurants non titulaires. Il faut tout de même savoir que les figurantes, souvent plus nombreuses que les hommes à se présenter, n'étaient pas payées. Eh oui, lorsqu'une jeune lingère proposée comme figurante posa la question des attributions, il lui fut répondu « Mais rien, voyons, on ne paie pas les figurantes à l'opéra. Telles que vous êtes, vous trouverez bientôt 10 riches seigneurs qui brigueront l'honneur de suppléer le manque d'honoraires. » De telles coutumes vont se perpétuer longtemps. Entretenir une fille de l'Opéra de Paris était bien vu et représentait un brevet de mondanité, ce qui va longtemps ternir la réputation des danseuses. Un règlement royal imposait aux directeurs de choisir les meilleurs sujets pour leur apprendre gratuitement leur métier. Les élèves furent en majorité des filles. Et c'est là que la courbe va s'inverser. Le nombre de danseuses va augmenter considérablement. Le recrutement féminin dominant dans les classes de danse voit la technique féminine évoluer, se perfectionner. Il faut ajouter l'allègement du costume qui permet une plus grande liberté des mouvements. Le corps féminin devient un objet esthétique, amenant une véritable révolution du langage chorégraphique. Le corps de la danseuse dévoile la pureté de la technique classique. Il devient un sujet artistique racontant une aventure humaine. en 1793, à Vienne, Salvatore Vigano, danseur et chorégraphe napolitain, fait danser sa femme Médina dans une robe légère rappelant les tenues antiques. Elle apparaît presque nue pour l'époque, dans une gestuelle rappelant les fresques de Pompéi. Son audace a soulevé la polémique, certes, mais la brèche était faite. Une page du Ballet Nouveau venait de s'ouvrir. Ce novateur va également faire avancer l'idée d'unité dans l'action en remplaçant l'habituelle alternance de scènes dansées et mimées par un enchaînement continu de mouvements exprimant l'action. De plus, il compose sur des musiques classiques comme Haydn, Mozart, Beethoven ou Rossini. Si le choréodrame créé par Vigano disparaît avec lui, laissant place au romantisme, il influencera 100 ans plus tard les ballets modernes avec Fokine, Massine et Liffard. Le courant romantique qui va suivre n'épargne pas le ballet. La semaine prochaine, nous irons ensemble rêver avec les danseuses romantiques. Adicias, al copkeben.